qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sou dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. S'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous, comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous allons continuer sur cette notion qui est une notion essentielle, qu'il importe que nous retrouvions vraiment comme le fondement de la société, c'est la notion d'amour. Je vais citer Albert Camus dans ses carnets qui disait: si je me sens un tournant de ma vie, ce n'est pas à cause de ce que j'ai acquis, mais de ce que j'ai perdu. L'incertain de l'avenir, mais la liberté absolue à l'égard de mon passé et de moi-même. Là est ma pauvreté et ma richesse unique. Si j'avais à écrire un livre de morale, il aurait 100 pages. Et 99 seraient blanches. Sur la dernière, j'écrirai: je ne connais qu'un seul devoir, et c'est celui d'aimer. Voilà. Donc, cette notion d'amour, nous avons rappelé dans les émissions précédentes, en particulier donc dans ces émissions consacrées à ce qui est actuellement le fer de lance de la poésie d'aujourd'hui, c'est-à-dire les femmes. Ce sont les femmes qui font la poésie aujourd'hui, et c'est d'ailleurs encore d'une femme dont je vais parler cette semaine. Il s'agira de Marie-Josée Christian. Mais avant, je voudrais peut-être reprendre ces pensées d'Albert Camus. Albert Camus, qui, vous le savez, était très lié avec une amitié extraordinaire avec le plus grand poète de son époque, qui était René Char. René Char, qui l'a accueilli dans son lieu, chez lui, et qui lui a même fait acheter une maison à côté de la sienne, et qui disait, Albert Camus à René Char, dans une correspondance qu'ils ont entretenue de 1946 à 1959, d'une façon discontinue, c'est-à-dire on peut voir vraiment quelle était l'extraordinaire puissance de cette amitié. Camus disait à René Char, la vérité est qu'il faut rencontrer l'amour avant de rencontrer la morale. Donc il a toujours cette mise en avant de ce que la morale ne peut être en définitive que, je dirais, les travaux pratiques de l'amour. Ou sinon, les deux périssent, disait-il. La terre est cruelle. Ceux qui s'aiment devraient naître ensemble. Mais on aime mieux à mesure qu'on a vécu, et c'est la vie elle-même qui sépare de l'amour. Il n'y a pas d'issue, sinon la chance, l'éclair ou la douleur. Camus, qui disait devant ma mère, « Je sens que je suis d'une race noble, celle qui n'envie rien. Ne rien envier, voilà quelle peut être la noblesse possible pour l'homme. » Alors je voudrais, cette semaine, avant d'aborder Marie-Josée Christian, dont j'ai déjà parlé pour sa dernière publication, il y a peu de temps, mais je voudrais revenir sur cette figure essentielle de la poésie actuellement, et puis qui habite cette région, qui est une région qui a abrité beaucoup de poètes et donné naissance à beaucoup de poètes, c'est la Bretagne. Mais avant, vous savez, ici, à Radio Occitanie, pour cette émission Les Poètes, nous avons toujours mêlé les vivants et les morts, parce que les poètes ont cette immortalité. Certes, ils ne sont pas éternels, c'est-à-dire qu'ils sont périssables, comme disait l'autre, mais leurs textes, eux, sont toujours là, et leur âme est constamment donc présente par ceux qu'ils ont laissés, ces traces qu'ils ont laissées. Et aujourd'hui, je voudrais vous lire un petit fascicule d'un de nos poètes disparus qui était l'avenir de la poésie espagnole que nous avons connue, bien connue, accueillie, et même nous avons eu le plaisir de faire une balade autour de l'étang de Bouzigues avec Pedro Heras. Alors Pedro Heras, c'était un météore, une création fulgurante, mais que la mort a saisi très vite, qui est mort très jeune, malheureusement, et qui aurait certainement été un des grands poètes espagnols. Il faut revenir sur Pedro Heras. J'espère qu'il y aura des publications, par exemple, sur ce qu'il avait dit sur le cahier de l'Argonaute. Mais il écrivait également, Pedro Heras, qui avait trois cultures. Il avait une culture espagnole, bien sûr. Il avait une culture française, puisqu'il vivait dans la région de Montpellier. Et puis, il avait également une culture allemande, parce qu'il avait fait des études en Allemagne et il avait beaucoup fréquenté ce pays. Il aimait voyager. Il voyageait avec peu, c'était un homme qui n'était pas riche. Il se débrouillait. Et en particulier, il avait fait deux voyages qui l'avaient marqué, un sur Lisbonne, bien sûr, et un sur Amsterdam. Alors je vais vous lire ce voyage qu'il a fait à Amsterdam parce que j'ai moi-même eu la chance de connaître cette ville peut-être quelques années avant lui, de passer un mois dans ce pays, les Pays-Bas, qui est quand même un pays mystérieux pour nous, mais également envoûtant. Et Pedro Heras a écrit Une toile contre la mer. C'est donc un extrait de ses chroniques du jour qui vient, qu'il avait l'habitude d'écrire pour toutes ses pérégrinations au travers de l'Europe. Et c'était un homme qui était doué en tout. Et donc il le publiait lui-même, ses textes, dans des éditions qu'il appelait les éditions Égypte, H-E-G-I-P-E, les éditions Égypte, et avec plusieurs formats, et en particulier un petit format qu'il appelait collection minuscule. On doit à Pedro Heras une des plus grandes, je dis bien une des plus grandes traductions de Miguel Hernández, Rayo que no cesa, l'éclair sans cesse, qu'il a publié donc dans la fin de, au début de ces années 2000. Certainement, je lirai cette traduction dans une prochaine émission. Mais aujourd'hui, je m'en tiens donc à ceci, parce que je vais réserver donc la fin de l'émission à Marie-Josée Christian. Je veux lire ce texte de Pedro Heras sur Amsterdam. Pedro Heras, qui, se sachant malade, très malade, avait mis en exergue de ce récit cette pensée de Spinoza: je m'efforce de vivre non dans la tristesse et les gémissements, mais d'une âme égale dans la joie et la gaieté. Et l'on peut en témoigner, Claude et moi, de ce que, effectivement, Pedro Heras mettait vraiment en pratique cette pensée de Spinoza. Il était d'une âme égale, pleine de joie et de gaieté. Écoutons Pedro Heras, Amsterdam. Pourquoi y a-t-il des lieux dont il nous est permis de parler que sous le sceau du secret, dans la confidence, comme s'il fallait trouver le juste silence, l'oreille adéquate, pour ne faire l'aveu finalement que de soi? Et d'autres, dont il serait vain d'en dissimuler les charmes, tant ils sautent aux yeux, tant leur scintillement se fait indépendamment de nous. Diamant de la curiosité de millions de badauds, n'émeut en rien. Au point, dès le premier instant, de se laisser prendre à serrer, d'en devenir, sans fausse pudeur, la victime consentante. De ces lieux où la roue de la vie se met soudain à tourner, et tournant, nous ramène aussitôt comme à un début. Nouveau départ peut-être, non, celui qui rejette déjà épave et équipage sur les rives de toujours, et dont rien au fond ne nous dépêtre, mais cet autre, l'instant gagné sans grande lutte, et par plaisir d'être. Nous, tenus dès lors, pour tout effort, à la jovialité élémentaire et à l'entrain mécanique de soi. Tel se veut peut-être au quidam vélocipède Amsterdam. Fatiguer la ville, épuisez-la dans ses moindres recoins, avant qu'elle ne vienne à bout de vous, de vos muscles, engourdis peut-être, vous qui venez de loin. Ce pourrait être la devise de cette ville ramenée à son simple rayon. Devise, écrite nulle part, c'est encore elle qui se lit le mieux sur les visages. Les autochtones, comme ces autres venus d'ailleurs qui circulent à vélo, comme on porte sur soi un nom d'emprunt. Tous pourtant à l'écoute des trois lettres, ces trois XXX, qui désignent la ville au fronton de partout, à s'y méprendre presque, pour dire motus, laissez faire, laissez courir, roulez, roulez. Rayon. Mais de quel cercle alors? Et à la force des mollets, sur le pédalier de votre enthousiasme, comme touché du premier amour, tissez-la, peu à peu et jour après jour, cette toile, puisque indéfectiblement elle a commencé son travail sur vous, qu'elle vous tisse et s'entortille autour, puisque indéfectiblement elle vous tient déjà, avant même que vous l'ayez courtisé. Amsterdam, la toile. Sans doute y a-t-il des amours excessifs, mais incontestables, de ceux qui vous sautent au cou sans qu'on ait demandé son reste, vous arrachant bien des baisers à l'heure pour que ce soit là un vrai gage d'avenir. Amsterdam a de ces ardeurs-là, elle qui fait étalage de ses grâces au moindre rayon de soleil, au premier coup de vent, et Dieu de Spinoza, Sidiana. Ce que sont ces eaux dormantes, alors s'éveillent, comme la soie de ces fils qu'un ciel brusquement illumine, jusque sur les rambardes, dégoûtant après le déluge, garde-fou, qui n'empêchait pas les Français d'y tomber du temps de Napoléon, certes, mais aussi Guéluron, et n'ayant cure de ce genre de sûreté, les Hollandais savaient peut-être mieux les profondeurs de leur folie, des rambardes, qui sont entre-temps comme ces anneaux où l'on venait nouer la bride de son cheval de poste sans avoir à verser encore d'écho ni payer de lourds tributs. Canasson maintenant à deux roues, mais fourbu, brinque-ballant, arborant parfois, il est vrai, une selle à ressort. D'ailleurs, quel ne serait pas l'embarras d'Hercule en ces temps d'encombrement? Vider, nettoyer ces écuries d'Augias, vastes comme la mer, dans le plein vent et sous le feu roulant des averses traîtresses. Alors, ces coursiers, que l'on croyait grinçants, récalcitrants, comme assoupis dans un coin, à l'abandon et d'un âge de carte postale, se mettent sous la pluie qui bat le pavé des quais, mais dont on ne regarde plus les façades, à des vallées, brides abattues, l'air changé soudain en aquatinte. C'est l'Amstelodamoise, par la grâce de son parapluie converti en Mary Poppins. Oh, déjà, elle écume plus loin le bitume, jouant de la sonnette ou renversant le flâneur, devisant toujours résolument conversation de salon tenue avec quelqu'un qu'elle n'est pas seule à ne pas voir, elle, qui parle dans sa main comme d'autres murmurent à l'oreille des chevaux. Mais venons-en toucher du doigt des couches plus profondes. Qui, à Amsterdam, se soucie trop des sautes d'humeur du temps? Ce calfeutre, mais cela existe-t-il vraiment? N'apprendra pas à ses dépens de quelle manière insistante, pénétrante, l'eau se venge de l'affront fait au quotidien à sa suprématie par ses rudes bâtisseurs à rase-motte, ces pourfendeurs de ciel à fleur d'eau, qui, depuis 8 siècles, ont envahi ses rives, ses berges, paisibles, depuis comme des mers intérieures. Car, dame le pion, amère nature, se dit ici encore dresser un dame contre la mer. Creusons encore. On a cru que l'art de la toile était celui des arachnides à pattes velues et filiformes, ou de ces araignées d'eau qui ont appris à marcher sur l'eau, à y tisser leurs passerelles à peine visibles, recommencer jusqu'à l'opiniâtrité par instinct, mais comme pour tout un chacun aussi par nécessité. Ainsi, du Jourdan, ce quartier admirable, Jardin et Jourdain à la fois, où le moindre ponceau fait le dos d'âne et sarc-bout, fidèle à l'art pudique et inimitable du plein cintre, monté pour aussitôt descendre. Or, Amsterdam, toile sur sur et contre la mer est bel et bien œuvre de rongeurs, d'excavateurs, de rats, de musaraignes. Ces chefs opérateurs des bas-fonds, tourbes et sables, embrassés mollement, amoureusement, où l'on va du mieux que l'on peut à chaque fois planter des cure-dents gargantuesques qui font le rétréci, le côté garde à vous, mais déjà la variété des façades, leur déhanchement aussi, une réalité de guingois où, épaule contre épaule, le faux plat finit par émouvoir. Musaraigne, araignée, direz-vous, même au combat. Et ce sont là fausses parentés, chez des peuples surtout ayant vécu trop longtemps à l'étroit pour, à la perte du large bénéfice, ne pas courir le monde. Mères de famille donc qui n'en sont pas, ou alors en apparence, pour ce côté-ci, ras des vides, aquatiques, mais pas pour là-bas, aussitôt hôtes des airs et bourlingueurs d'épices. Musardons encore un peu. Cette mer du Nord, qu'on repousse comme un barrage bleu contre la terre, cette inversion des signes, le cône des pignons à moulure en bas, se décomposant en infimes vaguelettes, la mer au-dessus des toits qui vient s'user contre l'impassibilité des digues, cette inversion de toutes les valeurs élémentaires qui fait penser que ce serait Nietzsche, la seule lecture possible en ces lieux, lui qui n'envisageait tout que depuis la hauteur. Aussi aura-t-il ignoré les vertiges du plat, au ciel comme sur terre. On connaît la chanson, mais ici il y avait les grands mouvements d'orchestre de ces décors de bonbonnières qui ont fait le miel de Rubens, de Ruisdael. Dès qu'on risque le pied et le nez, un tantinet au dehors. Et c'est là un pays qu'on découvre, où la continuité du sol ne se fait que dans la perspective. Terre morcelée aux fragments rapiécés comme nervuré de ciel cotonneux dans les sillons d'un limon à nu, ancestral. Vaste steppe, alors, sur laquelle on est venu poser un puzzle des pégasons et sur cet échiquier, un îlot serré, des vaches parsemées d'une partie qui s'avère lente et immuable, d'une sérénité qui ressemble à s'y tromper, qu'on le veuille ou non, à un ennui beau, mais séculaire. Que l'homme ait ici pris pied, qu'il se soit aguerri, qu'il ait encore, pour son plaisir, tenté de faire tourner en bourrique le vent, et qu'il ait ri, qui plus est, trouvant dans la lourdeur de la tourbe collée à son sabot sa propre légèreté, qu'il se soit montré à peine plus bavard que Dieu, derrière des vitres orphelines de tout rideau, pour nos esprits du Sud, moins exposés aux rudesses du temps, mais combien plus dissimulateurs. Voilà qui n'aurait pas été pour déplaire encore une fois à Nietzsche. Ces ciels qui nous reste, qui abaisse encore un peu la ligne d'horizon, mais comme pour la distraire de sa monotonie, ou mieux, pour lisser aux têtes éclairées et à l'esprit des sommets, frisant je ne sais où, les 300 mètres le jeu des ricochets. Voilà ce qu'a écrit Pedro Heras en septembre 2006, après son séjour à Amsterdam. Alors bien sûr, on voit que lui est originaire du sud, hein, c'est un espagnol. Il est dans un pays qui lui est étrange, avec une mentalité, il parle des vitrines, effectivement, hein, de l'âme méditerranéenne, en plus l'âme du sud. Le méditerranéen, c'est une âme quand même qui est disséminatrice, où chacun fait chez lui ce qui lui semble, mais pas la vue de tous. Alors que dans ces pays anglo-saxons, elle arrive aux Pays-Bas, effectivement, les rideaux sont presque inutiles. Les vitrines, ben, c'est bien connu que les prostituées sont dans des en vitrine, se mettent en vitrine. Donc c'était toute cette étrangeté de mentalité, une mentalité très différente. Avec ce sommet de 300 mètres, hein, pour un Espagnol, qui est un pays qui est plein de montagnes, où on va d'une montagne à l'autre, en définitive, et on a de grands sommets en Espagne. Et puis, il y a aussi alors cette merveilleuse composition de la langue, quand il parle d'Amsterdam, en particulier pour ses ponts, puisqu'il y a des ponts à Dodane, bien sûr, dans toute la ville. Et c'est un peu comme Venise, hein, c'est ce qu'on a appelé d'ailleurs la Venise du Nord. Mais il y a cette impression, effectivement, de monter, de descendre toujours sur ces ponts. Et cette omniprésence de la bicyclette. Et également cette architecture tout en hauteur. Je me souviens d'avoir été dans un hôtel à Amsterdam où... toutes les pièces étaient à un étage différent. Nous avions la salle à manger dans un étage, une chambre dans un autre étage et l'autre chambre dans un étage un peu plus haut. Alors, en tout cas, je crois qu'il y a là une vision qui est une vision totalement poétique, mais également philosophique. Les deux étant chez Pedro Heras absolument indissociables de cette ville. Et il a voulu voir comme une espèce de toile, hein, puisque quand on regarde ce que sont les Pays-Bas, je suis allé par exemple à Groningen, quand on va tout à fait au nord, eh bien on voit cette digue qui a coûté d'ailleurs la vie à des milliers d'Hollandais lors de la construction, cette digue qui fait que le pays a gagné donc toute une série de terres sur la mer et est un pays qui est en dessous du niveau de la mer, ce qui fait que si cette digue un jour s'effondre, eh bien tout le pays va être inondé. Donc une toile contre la mer, voilà ce qui définit absolument le Amsterdam d'une part et bien entendu toute la Hollande. Pedro Heras. Marie-Josée Christian. Alors Marie-Josée Christian, eh bien, c'est une dame qui est née en 1957 à Guiscriff, c'est dans la Cornouaille morbihanaise. Elle vit actuellement à Quimper, pas bien loin de notre amie Brigitte Maillard, où elle organise, avec elle d'ailleurs, avec Brigitte Maillard, elle organise les rendez-vous de Max. Les rendez-vous de Max, ce sont des rendez-vous de poésie dans la maison familiale de Max Jacob. Et elle a fondé une revue annuelle qui s'appelle Spered Gwez, qui veut dire l'esprit sauvage en breton. Elle a fondé ceci en 1991 et s'en est la responsable de rédaction. Elle collabore régulièrement à la revue bimensuelle Armen, A-R-M-E-N. Alors Marie-Josée Christian, elle est à la fois poète, critique littéraire, mais elle est aussi auteure jeunesse, et elle fait également des collages. Je me souviens de Claude Saguet, par exemple, qui avait cette marotte de faire des collages. Eh bien, Marie-Jésus Christiane est également collagiste. Et pour l'ensemble de son œuvre, elle est lauréate. Alors, d'un prix qui est un prix quand même très important, très prestigieux, c'est le prix Xavier Kral. Et elle a également reçu c'est le Grand Prix international de poésie francophone. Donc voilà, une auteure, une poète dont il faut quand même parler, puisqu'elle est quand même représentative au sommet de notre poésie. Alors parmi les livres de Marie-Josée Christian, on va citer Les Extraits du Temps, c'est aux éditions Sauvage, qui a eu le prix des Bretons de Paris d'ailleurs. Elle a écrit chez l'éditeur Jacques André, elle a écrit Lascaux et autres sanctuaires, Aspect du canal, ça c'est un petit recueil dans cette édition de Sacamo, et puis Conversation de l'arbre et du vent, chez Tertium Édition. Malheureusement, ces éditions n'existent plus, mais je pense qu'on doit pouvoir peut-être encore les trouver, Conversation de l'arbre et du vent. Et quand la nuit voit le jour, c'est toujours à Tertium Édition. Et puis, le dernier, c'est celui dont nous avons parlé récemment, nous avons consacré une émission, c'est L'affolement du sang, aux excellentes éditions Almanar. Alors, je vais aujourd'hui vous lire des extraits de cette revue qu'elle anime, Spéret de Gouez, dans la collection Parcours, où il publie une anthologie des portraits et des approches donc de Marie-Josée Christian, passagère du réel et du temps. C'est une très belle anthologie, très bien illustrée, et qui coûte la somme absolument modique de 13 euros. Je vous invite à vous procurer pour bien avoir une idée de l'extraordinaire puissance de poétique donc de Marie-Josée Christian. Alors il y a des portraits, très jolis portraits, il y a aussi des collages, on voit que c'est une très jolie femme, hein. Et il se lit dans ses yeux la pétillance vraiment qui appelle. Et puis elle adore les chats, on la voit, elle se fait prendre en photo d'ailleurs avec deux de ses chats, et moi j'adore les chats, et je pense que les gens qui aiment les chats sont des gens à fréquenter. Alors je vais vous lire sans plus attendre des extraits de Marie-Josée Christian qui sont publiés donc dans cette anthologie. Alors vous avez dans cette anthologie, bien entendu, le détail de tout ce qu'elle a écrit. Dans la démesure du possible. Alors là, on remonte au premier temps de ses écrits, nous sommes en 1975-1977. Je suis né d'un hiver convulsif, aux crinières de sel. Je me dérobe, m'embourbe, dans des sentiers inconnus, d'une nuit péremptoire, aux insomnies de gel crispé. Je sais bientôt les gestes quotidiens respireront le silence du jour, et nous, surpris, renverserons la tête pour chercher le vent comme pour naître. Ne crains pas ces nuages aux éboulis de sang, les flaques sur le sable attendent, de longs frissons où trébuche le jour, s'effacent les limites du soir, où le ciel se penche à l'écoute de l'air. J'arrive d'un désarroi, sans cri, entêté de terre, et de lumière. Au front des promontoires, auréolés de froid, on traverse de la nuit. J'ai la patience, des gestations. J'irise mes mots crevassés, transpercés, brûlés. J'invente ma vitesse, bloc de lave, ma révolte, fleurs carriées, rêves vacants, se détourner, marcher vers les mots imprononcés, évaporés. Nul flot de pensée, et seulement la caresse de l'onde et du désir se mêlant, se touchant, fluant et refluant, errant, infinie profondeur de la paix. Je sens seulement la caresse du mouvement du corps, percé par le rythme, lente palpitation des sens, bruissement de la soie, amour sans conscience, sans effort au fil liquide du désir, haleine dans l'extase de la dissolution, chute effeuillée des mots, colorant les humeurs, paroles, paroles à mi-voix, qui refusent d'être achevées. Comme si chaque parcelle de notre ressemblance s'était soudée par le feu et que l'on ne puisse plus distinguer entre nous de césure. Le départ conjurait l'absence. Déchirure du réel, étreinte de la douleur. Déjà notre verbe était ce château flottant. C'était mon entreprise, désormais, qu'un effort commun finisse par forcer de l'oubli les soleils sonores tatoués à jamais dans mes yeux. La pluie s'épuise en cris dans le froid de ces lieux. La pluie s'épuise en cris ruines. Le ciel est tel que tu es plus proche. Entre attente et nécessité. Franchis petite période, on est déjà en 1979-1982. L'horizon peine. La branche flexible de l'air s'est soulevée sur le passage des amis. On se lave les rêves. Et les mots sont démesurés quand ils sanglotent avant de rire. Les pleurs s'étalent, givre par givre, un spasme de fleurs, ma voix enrouée. En bas des tranchées, des regards attentifs, pétillent d'oiseaux blancs, d'une fièvre sans douleur, comme un immense regard troublé de larmes. Le verbe et le ventre se heurte. J'ai trop perdu ma trace où la lumière n'est que sous-entendue. Alors on a écrit ça à Châtelain. Châtelain, c'était en 81. Châtelain, je viens de mon séjour à Châtelain. Très beau pays. Le ciel n'a pas d'horizon. Les couleurs bougent à peine. Le temps coagule. Je m'habille à son reflet afin d'avoir la quiétude des passants, le temps de changer de saison. Ta proximité éclaire plus que mon profil. Pourtant l'opacité me dompte, des yeux causent avec le poids des paupières. Ils ne disent rien de leur silence. Une main suffit à arrondir le désespoir. Les jours, les nuits, ne passent que par la vie. Il se fait si tard, mon chagrin. Il y a un poids dans le soleil, comme un aveu continu, un vide délicat aux parois évidentes, s'obstine au creux de mes mains et j'arrose la mémoire. L'automne jaunissant de soleil, à l'œil des fenêtres, c'est midi qui se ferme, comme une boîte. De force, j'expulse l'ombre. Il me faut découvrir l'incendie du repos. J'aime la beauté dévorante des regards. Nous allons aller un peu plus loin avec le carnet des métamorphoses. Il est en 1992-1994. Je porte la graine dans mes racines. Je soumets ma substance à l'ordre qu'elle instaure. Ces instants de fusion suscitent la métamorphose. L'inconnu qu'il me faudra déchiffrer arrondit en moi le silence de sa sphère. Cette aube à l'affût accueille une autre lumière où conduit toute naissance. Tambour, 1995-1998. Alors en exergue, il y a cette citation de Milan Kundera dans La lenteur. Il y a un lien secret entre la lenteur et la mémoire, entre la vitesse et l'oubli. À oublier ça. La lumière, ployant sous l'hiver, s'efface sans reflet ni détresse. Les gouttes de pluie s'obscurcissent et glissent plus lourdes que la terre. La durée n'a de sens que dans les temps morts. Des sentiers, tracés à pas d'homme, longe le silence d'une vie. Une blancheur éparse, laconique, s'obstine jusqu'au ciel. Je laisse aux mots le soin de veiller. Sentinelle. Le mélange incessant de l'eau et de la terre lacère la pierre pour la mêler au ciel. Ici, l'abîme du fond des grèves efface espace et temps, seul survit ce qui s'allège. Dans le sursis d'une marée basse, propice à prendre pied et à éprouver quelque chose de consistant, il suffit d'une parole de trop. Et tout semble au bord du naufrage. Pierre après pierre sont passés en 2006. Mémoire de la terre embrasée, la pierre suspend les impatiences. J'attends que se dépose lentement une parenthèse de sérénité où les mots polissent leur vérité, pierre après pierre. Un jour pourtant, les grands plis de pierre, entaillant la dune, ne seront que galets. La pierre se réinventera pour ne pas disparaître. Revenir sur Affolement du sang. été écrit entre 2011 et 2017. Quand les pensées impensables s'alourdissent, se vident comme des cruches, le silence s'accroche à chaque mot, le soleil n'y pénètre pas. La terre frissonne, je voudrais sentir la vie plus fort, mais rien ne s'échafaude au cœur de la nuit, pas même un écho des rêves enfouis. Sans bruit, sans trace, chaque mot pèse de son poids de vie. Lancine ruisselle dans le corps, comme fou dans la chaleur du sang en cru. Parfois le silex affûté de ma conscience me fait peur. Au bord de vivre, au bord de mourir, bord à bord, roule ma boule de souffrance à même le sable du temps. Texte assez prenant, hein, assez bouleversant. Alors là, il y a une écriture qui se resserre tout d'un coup, qui se condense, une espèce de concentré terrible, terrible, où vraiment une des seules valeurs, c'est ce combat de la vie, de la mort, et ce combat qui passe avec le silence, qui passe bien sûr par ce besoin de la parole, de pouvoir dire ce combat et pouvoir dire aussi ce silence. Le silence s'accroche à chaque mot, dit-elle. Le soleil n'y pénètre pas. Ce n'est qu'un chemin pris par mon sang. Un long évanouissement. Le peu qu'il me reste, quand les mots se font rudes. Je n'ai plus pour me réchauffer que le vertige des points de suspension accaparés par l'attente. Et puis un texte en mémoire de Xavier Gras. Rappelons qu'elle a eu le prix, Xavier Gras. Ce temps-là. En ce temps-là, j'étais vivante. J'avais un visage. J'étais de ce monde, j'étais le feu. Je me consumais déjà. Éclat d'obscur et de lumière, écrit entre 2014 et 2020. La langue n'est pas le sujet du poème. Elle est seulement le matériau qui le sublime. La poésie n'est pas un supplément d'âme, elle est l'âme même. Ne pas confondre vivre en poésie et vivre de la poésie. La poésie est un état de veille. Le poème est ce qui résiste de plus humain de nous. Un vrai poète se reconnaît à sa capacité de sortir de lui-même et de dépasser l'horizon de sa propre parole à son généreux désir de partage. Les poètes belges me semblent une fantaisie pure, absolue. Celle des poètes bretons est plus mélancolique, plus grave. Écrire est l'acte le moins pessimiste qui soit, a écrit Georges Perros dans Papier collé. C'est aussi parfois le plus désespéré. J'écris pour éclaircir, pour éclairer. Écrire est très physique. Il faut aller chercher ces mots très loin, dans son corps et dans sa mémoire, au tréfond de ses cellules. On peut en sortir aussi épuisé qu'après une activité physique intense. Qu'on puisse se prétendre ou s'auto-proclamer poète me sera toujours incompréhensible.
et me paraît indigne de la poésie.
Si les poètes lisaient, ils écriraient moins. Il y a dans certains poèmes, juste l'idée d'un poème, qui ne donne au final qu'un discours sur le poème. Une poésie qui ne s'adresse pas aux êtres humains, qui se complaît dans l'incommunicabilité, est inutile, infondée. Sinon, on pourrait se satisfaire d'un poème écrit par une intelligence artificielle. La simplicité ne serait-elle pas l'une des marques du génie poétique? Les auteurs qui m'adressent la notice biographique la plus longue sont ceux qui ont l'œuvre la plus mince, et inversement. Le monde de la poésie est composé de beaucoup de talents indéniables, d'un certain nombre d'imposteurs et de quelques rares poètes authentiques. Si la poésie reste la plus proche tentative d'accéder à l'humain en nous, elle montre aussi qu'elle peut être simulacre. Tout grand lecteur n'est pas automatiquement un authentique poète, mais tout authentique poète est forcément un grand lecteur. Écrire, c'est manifester notre désaccord avec la marche convenue du monde. Dans le parcours d'un poète, il ne devrait y avoir aucune entorse, aucun accommodement, aucune compromission à son intégrité. Rares sont pourtant ceux qui refusent les systèmes heurtant les valeurs que porte la poésie. Écrire est un processus lent. Il en résulte une tension qui crée de l'énergie. Il faut du temps pour que la matière informe et brute se mette à exister. Ne jamais perdre de vue qu'on n'écrit pas qu'avec sa tête, mais avec toutes les cellules de son corps. La poésie métamorphose la création individuelle en un miracle collectif. C'est sur cette dernière pensée que nous allons arrêter notre émission. Je vous invite à lire alors ce que je viens de lire sur les éclats d'obscur et de lumière, sur cette définition des poètes, de la poésie, de la création poétique en deux pages, et à mon avis quelque chose de génial par justement ce qu'elle a acquis au bout de toutes ces années, cette force de concentration, de condenser les choses et d'aller juste à l'essentiel et d'enlever toutes les aspérités de la pierre brute, vraiment, pour ne trouver que la pierre polie. À lire Marie-Josée Christian, donc il y a l'affolement du sang, dont nous avons parlé, qui est disponible en librairie, et puis alors demander dans cette revue Spéred Gouez, collection Parcours, Marie-Josée Christian, passagère du réel et du temps. 13 euros. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente poursuite de la semaine à l'écoute de Radio Occitanie. Et nous vous disons à la semaine prochaine. À 17.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leur plume ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sou dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer, ils mettent des rubans autour de la l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous, comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.